Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Le Dieu qu'on prie est un Dieu excellent. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu avec moi?
Amen.
Amen. Nous sommes toujours sur les fondements du royaume pour se préparer au mariage. Hein? Est-ce que tu peux dire avec moi le mariage? Le mariage, c'est très important. Aujourd'hui on va rester sur notre lancée. On a déjà parlé de beaucoup de choses. À qui cela fait du bien depuis un certain temps? Hein? Je repose la question. Qui veut se marier? Si tu ne lèves pas la main. Qui veut se marier? En dehors de ceux qui sont déjà mariés. Ah. Parce que la dernière fois, il y en a qui n'ont pas levé la main. J'ai dit, vous ne voulez pas vous marier ou? Vous voulez vous marier tous. Voilà. Donc, les fondements du royaume pour se préparer au mariage. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de ce que le Saint-Esprit fera dans notre vie avant le mariage. On a parlé de l'intimité avec le Saint-Esprit, le principe du seul à seul avec Dieu, quelque chose d'extrêmement important. C'est ce sur quoi on a atterri la semaine dernière. Et aujourd'hui, je vais me focaliser sur ce point. 21 caractéristiques du conjoint idéal selon Dieu. Ah ça, il y en a qui vont prendre les stylos et les feuilles pour noter. Je ne pense pas qu'on finira aujourd'hui. Certainement, on finira la semaine prochaine. Et si Dieu permet qu'on insiste là-dessus la semaine d'après. Mais je voulais aborder ce point-là parce que je suis allé chercher la face de Dieu et puis j'ai dit, Seigneur, de quoi vais-je leur parler à nouveau? Parce qu'on y sommes sur le thème de la préparation au mariage. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle, il y a beaucoup de gens qui veulent se marier, beaucoup de gens qui fréquentent d'autres personnes, etc., etc. Il dit, parle-leur du conjoint, parle-leur de la personne qu'il faut. Mais attention, ce qu'on va commencer à partager à partir d'aujourd'hui sur ce point-là, ne concerne pas seulement la personne que tu vas rencontrer. Ça te concerne toi aussi. Parce que quelqu'un d'autre aussi cherche aussi à te rencontrer. Donc toi aussi, tu es un conjoint pour lui. donc ça concerne tout le monde. Hein? La semaine dernière, j'ai abordé trois clés à comprendre pour trouver le bon conjoint. Trois clés. C'était un peu, on va dire, l'introduction un peu du sujet d'aujourd'hui. Et la première chose qu'on a dit, c'est que pour pouvoir trouver son conjoint, pour pouvoir trouver la bonne personne, le plus important d'abord, en tout premier, c'est d'abord de chercher premièrement le royaume de Dieu. Hein? Est-ce qu'on peut dire avec moi le royaume de Dieu? Parce que Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume. Ne cherchez pas les hommes, ne cherchez pas les femmes. Cherchez le royaume. C'est quand tu cherches le royaume, c'est quand tu poursuis le royaume dans ta vie, que Dieu permet que sur ton chemin, il mette quelqu'un sur ton chemin qui te correspond. Adam cherchait le royaume. Adam travaillait pour le royaume. Adam ne se préoccupait pas de Ève. Adam ne cherchait pas une femme. Adam cherchait une aide. Quelqu'un qui pourrait l'aider dans sa tâche. Et Dieu lui envoie les animaux et il ne trouve pas d'aide au milieu des animaux. Dieu l'endort et quand il se réveille, il trouve une femme devant lui et il dit, voici enfin. Il cherchait depuis un certain temps. Mais cette fois-ci, il trouve une aide qui est semblable à lui, os de mes os, chair de ma chair. Et sur le chemin de ta destinée avec Dieu, tu rencontreras toujours beaucoup de monde, beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de gens sur le chemin de ta destinée que j'ai appelé des sorties de route. Des gens qui peuvent venir t'embrouiller. Des gens qui peuvent venir te déconnecter, te déconcentrer de la tâche à laquelle Dieu t'a assigné. Il y a beaucoup de gens que tu vas rencontrer dans ta vie. Veille à ne pas devenir amoureux de tout le monde. Veille à ne pas ouvrir la boîte de Pandore à tout le monde. Il y, Il y a des femmes, par exemple, ou même des hommes d'ailleurs, qui ont rencontré tellement de gens dans leur vie, elles ont aimé tellement de personnes qu'au bout d'un certain temps, elles ne savent plus qui elles aiment vraiment. Elle veut se marier, mais dès qu'elle voit quelqu'un, le cœur recommence à battre. Le gars, mais c'est comment? Tu penses encore pour lui? Après, elle rencontre encore un autre, le cœur bat aussi là-bas, parce que tellement elle a ouvert son cœur à tout le monde. Non, sur le chemin de ta destinée, fais attention, parce que la Bible nous dit dans Proverbe 4, au verset 23, « Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ton cœur est trop important. Si tu t'amuses à ouvrir ton cœur à n'importe qui, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Donc, celui qui est digne de ton cœur, tu dois prendre le temps de bien le chercher et bien l'observer pour pouvoir discerner que c'est bien celui-là que Dieu t'a donné. Maintenant, sur le chemin de la vie, bien entendu, on peut s'attacher à des gens. C'est ça, c'est normal, c'est naturel, c'est humain. On s'attache à des gens. Et puis, quand on se sépare de ces gens-là, on se rend compte que ce n'était pas la bonne personne, mais parce qu'on est attaché, ça fait mal. Ça fait mal, etc. Mais, eh bien, ce genre d'expérience-là doivent nous enseigner et nous faire comprendre que la prochaine fois, va d'abord chercher le royaume de Dieu. Cherche d'abord Dieu. Cherche d'abord l'approbation de Dieu. Entends la voix de Dieu pour ta vie avant d'ouvrir ton cœur pour cette personne-là. Amen. Chercher le royaume, c'est très important. Et chercher le royaume attire naturellement la faveur sur ta vie. Le deuxième point qu'on a vu, c'était la clé de l'accord. Une fois que tu commences à fréquenter quelqu'un et que vous commencez à marcher ensemble, vous devez être d'accord. Vous devez vous accorder. Vous devez vous entendre sur tous les points avant de vous engager. Parce que la première étape, rappelez-vous, c'est l'étape des fréquentations. Ensuite, il y a la deuxième étape qui est l'étape émotionnelle. C'est là où on s'attache maintenant à la personne et on entre dans la phase des fiançailles. Et après cette phase-là, la troisième étape, c'est le mariage. Mais dans la phase des fréquentations, on fait attention. On ne commence pas à aimer maboulement. On ne commence pas à aimer bêtement alors que tu n'es pas sûr que c'est la personne qu'il faut. Non. Dans l'étape des fréquentations, c'est l'étape où on apprend à se connaître. On apprend à se découvrir. On s'étudie l'un l'autre. On n'est pas en train de dire qu'on va se marier toi et moi. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai beaucoup insisté en disant qu'à l'étape des fréquentations, on ne parle pas mariage. On ne parle pas mariage. On ne parle pas sexe. On ne parle pas mariage. Et c'est toutes ces choses-là qui peuvent nous lier de manière intime. On ne parle pas. On est de bons amis. Hein? On est de bons amis. Tu veux m'attraper la main? Non. M'attrape pas la main. Je ne suis pas ta copine. Hein? On est juste des amis. On apprend à se connaître. On se fréquente. Il y en a qui me regardent avec des sourires. Parce qu'ils savent que ce n'est pas exactement ça. Mais si, c'est ça. C'est ce que Dieu dit. L'accord. Et enfin, la troisième clé, c'était bâtir une amitié intime. Être ami. Mais on peut être des amis beaucoup plus, de manière plus poussée. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on est ensemble. Parce que tout simplement, on se plaît l'un l'autre. On se fréquente. On se voit. On décide d'aller manger ensemble, de s'appeler, etc. Et on bâtit une amitié intime. Et c'est dans cette phase-là qu'on doit prendre la décision de s'engager ou pas. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur ce point, la 21 caractéristiques du conjoint idéal. OK? Et le conjoint idéal, bon, j'ai envie de dire que personne n'est parfait. Hein. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de conjoint parfait. D'accord? Mais il y a quand même des points très importants que l'on doit relever. Le conjoint que tu vas rencontrer, la personne que tu vas rencontrer, peut-être ne répondra pas à tous les critères. D'accord? Certainement. Parce que celui qui répond à tous les critères que je vais donner là pendant 2 semaines, vraiment, c'est Superman. Vraiment, c'est Clark Kent. C'est le gars parfait, quoi. Tu vois? Non. Superman n'existe pas. C'est qu'une fiction. Hein? Mais assure-toi quand même que la personne réponde à la majeure partie des points. Approcher son futur conjoint est une étape très importante avant de s'engager. Et un mariage solide est d'abord basé sur une amitié sincère. Est-ce qu'on peut dire avec moi une amitié sincère? On est d'abord des amis et on doit d'abord apprendre à marcher ensemble. Amos nous dit, Amos 3:3 nous dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus ou encore sans s'être mis d'accord? La réponse est tout simplement non, naturellement. Donc, tu ne peux pas construire une bonne relation amoureuse avec quelqu'un si vous ne devenez pas d'abord des amis. Pourquoi est-ce qu'il faut que vous deveniez des amis avant? Parce que tout simplement, la personne à qui tu vas décider d'ouvrir ton cœur, la personne à qui tu vas décider de t'engager doit être quelqu'un qui est digne de ta confiance. Et la confiance, ça se mérite. Et la confiance, on prend du temps avant de la donner à quelqu'un. Tu rencontres pas quelqu'un, et puis, bon, excusez-moi de dire ça de manière aussi crue, mais tu rencontres pas quelqu'un, et puis tout de suite, en Christ, hein, en Christ. Je parle pas des gens de dehors, je parle en Christ. Tu rencontres pas quelqu'un, et puis tout de suite, c'est bisous, bisous dans le lit. Non, ça marche pas comme ça dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, il y a ce qu'on appelle un process. Un process. Et ce process dans le royaume commence avec Dieu. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu. Quand tu rencontres quelqu'un et que vous vous plaisez, boum, boum, il y a quelque chose qui se passe entre vous. Il y a quelque chose. Tu sais pas, tu sens que cette personne, on peut être bien ensemble. Dieu d'abord. Va, cours pas. Vous commencez à vous voir, vous devenez des amis. Et puis tu commences à ressentir des choses pour la personne. Commence pas à ouvrir la bouche trop vite. Va d'abord prendre un temps de prière et de jeûne avec Dieu. Et puis dis, Dieu, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Oh! Elle, c'est vrai, elle est belle, elle est sympa, elle est intelligente, elle a fait des études, elle travaille, elle aime le Seigneur, elle va à l'église, elle sert. Enfin, est-ce que c'est elle? Il n'y a que Dieu qui peut te montrer spirituellement la personne. Il n'y a que Dieu. Et si tu ne prends pas le temps, tu risques d'aller te mettre avec quelqu'un. Le jour où elle va te montrer son vrai visage, tu ne vas rien comprendre. Et la confiance, ça se mérite. Et il faut prendre le temps d'apprendre à connaître la personne pour lui donner ta confiance. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui brise ta confiance, qui te trahit. Et quelqu'un surtout à qui tu as ouvert ton cœur. Quelqu'un à qui qui t'a déçu. Et ça fait très très mal. Et la phase des fiançailles est tellement importante qu'il n'y a pas plus capital que de discerner la bonne personne. Parce que quand tu entres dans la phase des fiançailles, dans cette phase-là, tu t'es ouvert, tu t'es donné. Et vous êtes dans la phase de préparation du mariage. Donc là, c'est censé être non-retour. Mais c'est embêtant. J'ai envie de dire c'est embêtant. C'est pas impossible. C'est pas interdit de rompre des fiançailles. Mais c'est embêtant. Parce que tu as déjà présenté la personne à tout le monde. Tout le monde vous voit maintenant ensemble. La personne même vient à la maison, les parents l'ont vu. Et tu sais, les parents, eux, ils se font des films vite. Ils vous considèrent même déjà comme mariés, etc. Non, ça va très vite. Mais le jour où tu découvres que la personne, en fait, c'est une vipère, ou bien c'est un trompeur comme pas possible, c'est embêtant. C'est désagréable d'aller rompre des fiançailles. C'est très désagréable. Mais ce n'est pas interdit. Amen. Et il y a des éléments qui ne trompent pas. Mais si tu te fies aux apparences, si tu ne prends pas le temps d'aller chercher Dieu, tu risques de faire de grosses erreurs. Amen. Regardez ce que Salomon nous dit. Plutôt David. David nous dit, dans Psaume 119, détourne, il parle à Dieu, détourne mes yeux. Ça, c'est une très bonne prière que tu dois aller faire quand tu commences à fréquenter quelqu'un. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voix. La version française courante nous dit, détourne mon regard des affirmations creuses. Tu sais, toi et moi, on fera beaucoup d'enfants, toi et moi. On aura une maison comme ça. Tu sais, chez nous, on sera comme ça. Tu sais, moi, tous les matins, quand on se lèvera, j'aimerais bien qu'on prie ensemble. Ou bien qu'on... Tu sais, j'aimerais bien qu'on voyage une fois par an. Etc, etc. Les affirmations creuses. Tu vas me lui dire, arrête ton baratin. Allons chercher Dieu. Et puis, on va voir si vraiment Dieu nous a appelés à être ensemble, toi et moi. Bon, enfin, dis pas ça comme ça, s'il te plaît. Dis ça avec beaucoup de sagesse et d'amour. Hein? Mais tu dois aller chercher Dieu. Détourne mon regard des affirmations creuses et fais-moi vivre à la manière qui te plaît. Et ton couple, ta relation amoureuse, elle doit plaire à Dieu. S'il commence à y avoir des choses bizarres entre vous, sache que ça ne plaît pas à Dieu. Et Dieu ne bénit pas ce qui ne lui plaît pas. Et quand vous êtes sur la mauvaise voie tous les deux, parce que vous n'avez pas respecté le process, vraiment j'ai envie de le dire de tout mon cœur et avec beaucoup d'humilité, ne vous attendez pas à la faveur de Dieu. Dieu n'accorde pas sa faveur à ceux qui le déshonorent. Ça, c'est clair. Si vous avez déshonoré Dieu durant le processus de préparation, ne vous attendez pas à ce que Dieu bénisse votre mariage, même si la salle est comble. Si la salle est comble, ça ne veut pas dire que Dieu est comble. Blé. Ça ne veut pas dire cela. Si pendant tout votre mariage, toutes vos fiançailles, Dieu a été déshonoré parce que vous avez menti au pasteur, vous avez couché ensemble, vous voyez le soir en cachette, chez elle ou chez lui, etc. Et quand on faisait les entretiens, c'était non, tout va bien. Tout va bien. Et on prépare le mariage, et puis vous commencez à échanger les vœux. Dieu n'est pas là. Dieu vous regarde, il fait. Donc, s'il y a eu sortie de route pendant les préparations, on se voit et puis on dit, écoute, on va d'abord repousser la date du mariage. Et puis, on va aller chercher la face de Dieu. On va s'humilier, on va demander pardon. Et puis, vous allez voir que, en général, les enfants de Dieu qui sont en préparation pour le mariage et qui cachent des choses ou qui font des choses ou qui tombent, etc., vous allez voir qu'en général, ils ont beaucoup de problèmes. Il y a toujours des problèmes qui arrivent. Soit c'est avec la famille, soit c'est le jour du mariage, ça ne va pas, etc. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Et souvent, c'est Dieu qui alerte ou bien qui, Dieu n'est pas d'accord. Et quand c'est comme ça, si vous êtes vraiment sincère, si vous êtes vrai avec Dieu, vous devez savoir vous arrêter et dire non, on a péché. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, tu ne peux pas baser une relation juste sur de bonnes paroles, juste sur des apparences. C'est très dangereux parce que tout est spirituel. Et la personne parfaite, elle n'existe pas. Et ce que Dieu veut, c'est que tu viennes d'abord chercher sa face, que tu viennes d'abord prendre le temps de l'écouter. Tu l'écoutes seul, et si maintenant vous êtes maintenant très unis tous les deux, vous l'écoutez à deux. Vous prenez des temps de jeûne, de prière ensemble, etc., etc. Et Dieu peut vous révéler beaucoup de choses. Et c'est parce que Dieu veut que tu réussisses qu'il désire le meilleur pour toi. Et pour cela, il a des exigences en termes de choix. Et toi aussi, tu dois être très exigeant. Même si la personne te plaît, même si la personne est sincère, même si la personne est prometteuse, tu dois être extrêmement exigeant avec toi-même. Parce que, je le répète, il suffit d'une personne pour faire de ta vie un enfer ou un paradis. Si tu t'amuses à choisir la mauvaise personne, ce n'est pas bon. Amen. David nous dit dans le psaume 119 au verset 40 rapidement, « Mon vrai désir, c'est de suivre tes exigences. Puisque tu es juste, rends-moi la vie. » Des exigences. Dieu a des exigences. Et Dieu est exigeant. Amen. Donc, le conjoint idéal, selon Dieu, selon la parole de Dieu, on peut dire beaucoup de choses, d'accord? Mais j'en ai sélectionné 21 critères. Et le premier critère concernant le conjoint idéal, le tout premier critère, c'est qu'il est la crainte de Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu. Voici ce que la Bible nous dit dans le Proverbe 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de Dieu est la base de tout. Dans votre relation, il doit y avoir la crainte de l'Éternel. Dans tout ce que vous faites, il doit y avoir la crainte de Dieu. Tout part de la crainte de Dieu. Quand tu vois le comportement de quelqu'un, si cette personne n'a pas la crainte de Dieu, tu vas voir que le comportement que cette personne va adopter, en général, sera en décalé avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi la crainte de Dieu? Et si le conjoint que tu décides de fréquenter, avec qui tu décides de t'engager, est quelqu'un qui ne craint pas le Seigneur, qui n'a pas la crainte de Dieu dans sa vie, alors que cette personne reste simplement un ami. Ne t'amuse pas à t'engager avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Parce que quelqu'un qui ne craint pas Dieu est quelqu'un d'extrêmement dangereux. La crainte de Dieu, c'est tout un enseignement. On peut rester des jours à enseigner sur la crainte de l'Éternel. Mais je vous assure, ce que Dieu cherche, c'est la crainte. La crainte, c'est cette personne. Tout le monde n'est pas parfait, tout le monde fait des erreurs. Mais dès qu'il fait des erreurs, il sait se repentir immédiatement et dire, « Oh Dieu, j'ai péché. » Comme David. David n'était pas parfait. David était même pire que les autres. Il a tué, il a menti, il a fait l'adultère, il a tout fait ce gars-là. Mais ce monsieur, il avait un don, c'est qu'il avait la crainte de Dieu, il savait aller se repentir devant Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu cherche. Amen. Donc, fais très attention aux gens qui ne craignent pas le Seigneur Et c'est le premier critère de choix pour le conjoint idéal. Regarde si cette personne craint Dieu dans sa manière d'agir. Regarde si cette personne honore le Saint-Esprit. Regarde si cette personne honore les choses sacrées. Regarde comment cette personne parle de Dieu ou de tout ce qui touche à Dieu. Regarde comment cette personne honore les serviteurs de Dieu. Regarde comment cette personne parle de l'Église. Regarde comment cette personne se comporte avec toi en ce qui concerne le péché. Est-ce que c'est quelqu'un qui a peur du péché, fuit le péché, ou bien c'est quelqu'un qui est léger avec la crainte de Dieu? Regarde si c'est quelqu'un qui est dans les petites choses, qui est léger dans les petites choses, le vol, la corruption, ce genre de choses, la crainte. Si c'est quelqu'un qui est léger là-dedans, c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte. Regarde comment la personne réagit après avoir fait une gaffe. Est-ce que c'est quelqu'un qui sait s'humilier rapidement et demander pardon? Ou bien c'est quelqu'un qui joue le gando et puis il attend une semaine pour te demander pardon? La crainte. Proverbe 15, verset 16 nous dit ceci. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Tu peux être qui tu veux. Tu peux avoir, on peut porter les plus beaux habits au monde. Il y a des gens, vous les voyez, en apparence tout va bien. Mais entre eux, c'est les problèmes. C'est les problèmes. Dieu n'est pas honoré dans leur couple. Dieu n'est pas respecté et ça se dispute tout le temps. Pas de crainte. Pas de crainte. Quand vous êtes dans une pièce, quand la personne te dit qu'elle n'est pas d'accord, regarde comment elle se comporte. Est-ce qu'elle te dit, non chérie, je ne suis pas d'accord. Viens, on va d'abord discuter. Je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'elle te dit ça comme ça ou bien c'est là, ah, je ne suis pas d'accord, elle claque à bord, bam, la pièce s'en va. Crainte de Dieu. Crainte de Dieu. Le Saint-Esprit est dans la pièce, mais la personne claque la porte et puis elle t'envoie balader. S'il y a un geste que je n'aime pas, c'est quand les gens font « Ah !» comme ça. Quand quelqu'un te fait ça, vous êtes en train de vous prendre la tête et puis elle te fait ça. Ça, c'est un signe fort que la personne là fait gaffe. Fais gaffe, fais très attention. Donc, mieux vaut prendre le temps de développer une relation avec quelqu'un qui craint Dieu que de le faire avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Tôt ou tard, cette personne attirera la malédiction sur votre couple. Tôt ou tard. Tu te mets avec quelqu'un qui ne craint pas le Seigneur, fais gaffe. Et il y a des signaux d'alerte. J'en ai pris quelques-uns, quelques exemples. Regarde par exemple quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, qui parle avec dédain de l'Église. Quelqu'un qui parle mal du pasteur. Quelqu'un qui parle de sexe avec légèreté. Quelqu'un qui ne paie pas sa dîme. Question argent, attention, c'est pour moi, c'est pas pour Dieu, c'est pour moi. Quelqu'un qui a un problème avec l'argent. Quelqu'un, par exemple, très important, ça revient beaucoup dans la vie en ce qui concerne la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a un problème avec la soumission aux autorités. Quelqu'un qui a du mal à se soumettre aux autorités, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Je vous assure, un jour on aura un enseignement là-dessus. Les autorités, blaguez pas avec ça. S'il y a bien une chose avec laquelle Dieu ne joue pas dans la Bible, c'est le manque de soumission aux autorités. Dieu frappe quelqu'un qui bafoue les autorités. Et quand je dis autorité, je ne parle pas seulement de pasteur, je parle de tous ceux qui a appellation autorité dans la vie. Les parents, ton patron au travail, les autorités politiques, tout. C'est-à-dire, quand la personne en face, quelle qu'elle soit, quel que soit ce qu'elle a fait, si c'est une autorité, calme-toi. Le policier t'arrête dans la rue. Ah, monsieur, vous m'arrêtez pourquoi? Ah, là, là, là. Ah, parce que tu penses que tu as le galon là, tu peux me faire quoi? C'est une autorité. Fais attention. Le jour où tu es avec lui dans la voiture, le policier vous arrête parce que vous avez brûlé un feu. Et puis le policier arrive, monsieur, veuillez arrêter le moteur, s'il vous plaît, papy. Oh, c'est bon là, il n'y a rien là. Tu le regardes, tu fais, hey, qu'est-ce qui t'arrive là? Ah, oh, il me fatigue parce que c'est un policier. Fais gaffe. Ça, c'est un signe fort. Autorité. Ou bien, on donne une instruction à l'église, et puis dès que vous êtes sur le chemin du retour à la maison, ah, ce que le pasteur l'a dit, franchement, ça ne s'applique pas à moi. Moi, franchement, fais attention. Ou bien, oh, mon père veut nous voir parce qu'il veut discuter avec nous. Ah, ton père. Oh, la dernière fois, il nous a fait un lapin et la semaine d'avant aussi. Il nous fatigue, ton père. Oh. Fais gaffe. Fais très attention. La crainte de Dieu. Donc, quand tu développes une relation de proximité avec une personne, Parce que tu es proche, tu peux voir si cette personne a la crainte de Dieu. Tu commences à la connaître. Et quand tu discernes que cette personne-là n'a pas la crainte de Dieu, ne t'engage pas. Attends que cette personne grandisse. Proverbe 28, 14 nous dit, on finit ce point avec ceci. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Le conjoint idéal commence d'abord par la crainte de l'Éternel. C'est le premier critère de sélection. Le premier critère de sélection. Et si Dieu t'accorde la grâce de rencontrer quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel, bénis Dieu. Rends grâce à Dieu quand tu es avec. Même s'il a d'autres défauts. Mais si tu vois que ce garçon est quelqu'un qui craint l'Éternel, qui craint Dieu, sache que c'est quelqu'un qui va aller très loin avec le Seigneur. Amen. C'est très important. Le second critère, c'est celui-ci. C'est quelqu'un qui est fidèle. Est-ce qu'on peut dire avec moi la fidélité? La fidélité. La fidélité est un critère extrêmement important. Un critère de choix pour Dieu, la fidélité. Lorsque tu es avec quelqu'un et que tu discernes que c'est quelqu'un qui a du mal à rester fidèle, alors, de même, fais aussi très attention à ne pas suivre cette personne. Proverbe au chapitre 20 nous dit, beaucoup de gens, ah ça j'aime ça, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle, qui le trouvera? Ça veut dire que les gens fidèles sont rares de nos jours. Quand on dit fidèle, naturellement, vous pensez fidélité en termes de relations humaines, c'est-à-dire est-ce qu'il est avec moi ou bien est-ce qu'il sort avec d'autres personnes en cachette. C'est pas juste ça. C'est fidélité dans tout. Fidélité, est-ce que tu peux dire avec moi fidélité? La fidélité est une exigence. Et c'est très important de discerner si la personne est quelqu'un de fidèle. Regarde si c'est quelqu'un, par exemple, qui tient parole. Il dit quelque chose et puis tu vois qu'il se rétracte. Et il te fait ça souvent. C'est quelqu'un qui n'a pas de parole. C'est quelqu'un de très dangereux. Regarde si c'est quelqu'un qui est fidèle dans ses engagements avec les autres. Regarde s'il est fidèle avec l'argent. Comment est-ce qu'il dépense son argent? Quand tu vois quelqu'un, tout à l'heure on va en parler, quand tu vois quelqu'un qui a du mal à garder l'argent, tout le temps il est en train de dépenser, ça c'est quelqu'un qui a un problème de fidélité. C'est quelqu'un qui a un problème il a un problème de fidélité. Regarde s'il fait sa dîme. Vous êtes en Christ. Mais tu vois que mois après mois, tantôt il paye, tantôt il ne paye pas. Tantôt il paye, tantôt il ne paye pas. Mais toi qui es à côté de lui, tu vois qu'il a l'argent. Le pasteur a parlé de dîme aujourd'hui. Dimanche prochain, il court, il vient, il ramène sa dîme. Le mois d'après, il ne ramène plus. Et tu lui demandes, mais tu as amené ta dîme? Ah, j'avais trop de problèmes ce mois-ci, là, trop de dépenses. Fidélité. Inconstant. Inconstant. Dans la Bible, il y a un homme qui avait un nom. Et ce nom traduisait infidèle. Ce nom voulait signifier infidèle, inconstant. C'était Simon. Et quand Jésus-Christ le voit, Jésus-Christ lui dit, désormais tu ne t'appelles plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Parce que moi je ne veux pas les infidèles à côté de moi. Tu t'appelleras Pierre. C'est-à-dire celui qui est solide, celui qui est constant, celui qui est ferme. Mais dans la Bible, Pierre est l'exemple parfait du manque de fidélité, n'est-ce pas? Celui qui est resté 3 ans avec Jésus, quoi? Jésus-Christ lui dit, avant que le coq ne chante, tu vas me renier. Non, Seigneur, je meurs avec toi s'il faut. Oh, non, Dieu, toi et moi, ton pied, mon pied, Jésus, quoi? Non, jamais. Oh, Jésus, quoi? Quand le soldat vient, il sort l'épée, il coupe l'oreille et tout. Non, Jésus, moi, je meurs avec toi. Mais il se retrouve face à une vieille femme. Mais toi, tu n'étais pas avec Jésus, toi. Qui, moi, jamais. Oh, le gars là, jamais. Oh, un menteur. 3 fois. Et la Bible dit que. Et il jure. Je jure que je ne connais pas le gars là. Jésus le regarde. Et il voit Jésus et il se rappelle ce que Jésus avait dit. Jésus lui dit, ah Pierre, tu as juré, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, tu es grave. Mais ce qui est encore plus fort avec ce gars-là, c'est que c'est lui qui fait le premier discours parmi tous les apôtres. Livre des Actes, c'est lui qui fait le premier discours devant plus de 3000 personnes. Et puis il dit, vous avez renié le Seigneur. C'est ce qu'il dit dans son discours. Vous avez renié celui que Dieu a choisi comme Christ. Je pense que dans la salle, il y avait quelqu'un qui était en train de bouillir, qui disait, mais c'est toi qui as renié Jésus. Non, c'est nous qui l'avons renié. Hein? Non, fidélité. Est-ce que tu peux dire avec moi fidélité? Donc, beaucoup de gens proclament leur bonté. Ça veut simplement dire qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup. La plupart des gens parlent beaucoup. La plupart des gens disent de belles paroles. Tu es avec quelqu'un, il dit beaucoup de belles paroles, mais ne te fie pas à ça. Et la fidélité, je veux te dire comment est-ce qu'on estime la fidélité d'une personne. On estime la fidélité d'une personne sur le long terme. Tu veux discerner si quelqu'un est fidèle, fais-le patienter. Fais-le attendre. Vous êtes ensemble, tu sais qu'il veut se mettre avec toi. Tu lui as dit, il n'y a pas de problème, mais on attend le feu vert de Dieu. Et puis tu vois comment il se comporte. Tu vois s'il est toujours là. Tu vois s'il est toujours à tes côtés, s'il te soutient. Tu vois son comportement. Le temps passe, les années passent. Est-ce que c'est un Jacob qui est prêt à attendre 14 ans? Le jour où elle te sort ça, tu peux attendre 14 ans comme Jacob. 14 ans? Oh, toi aussi. 14 ans? Mais attends. Attends, si je te fais attendre 14 ans, tu peux attendre? Non, chérie, toi, ça ne va pas attendre 14 ans, toi aussi. Ah, mais attends, moi, j'ai décidé de faire médecine. Tu sais que là-bas, c'est au moins 8 ans. Donc, je ne me marie pas tant que je n'ai pas eu mon diplôme. 8 ans! Ah! Non. Alléluia, prie pour que Dieu ne t'envoie pas la femme qui va te dire ça. Amen, gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, on voit des mariages voler en éclats à cause du manque de fidélité de beaucoup de conjoints. Parce que beaucoup de gens se sont mis ensemble sans avoir discerné des signaux importants que Dieu leur donnait en ce qui concerne la fidélité. Tu te mets avec la personne, tu penses que c'est la bonne personne, et puis arrivé dans le mariage, tu te rends compte que cette personne, wow, elle t'a caché une relation derrière pendant des mois et des années. Tu dis, comment tu as fait pour me cacher ça? Fidélité. Amen. Et Dieu veille de manière très particulière sur les gens qui sont fidèles. Regarde ce que la Bible nous dit en ce qui concerne les gens fidèles. Psaume 50 au verset 5, c'est Dieu qui parle. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Psaume 97 au verset 10 nous dit encore ceci, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Je peux t'assurer que s'il y a bien quelqu'un que Dieu protégera toujours, c'est celui qui lui est fidèle. Un jour, je parlais avec un politicien et je demandais à un politicien, mais pourquoi tel et tel président, ils ne changent pas les gens qui sont à côté d'eux? Pourtant, ces gens-là, on leur tire dessus, on dit qu'ils sont mauvais, on dit qu'ils sont ça, mais ils gardent toujours la même personne à côté de lui. Année après année. Et un jour, je reçois une pensée qui me dit, fils, c'est parce qu'il garde à côté de lui des gens qui lui sont fidèles. Des gens qui, quand il tourne le dos, il sait que ces gens ne le poignarderont jamais derrière. Et je peux t'assurer que quand tu as quelqu'un comme ça à côté de toi, on peut dire tout ce qu'on veut sur lui. Tu dis, non, lui, je le garde à côté de moi. Parce que lui, il a juré fidélité avec moi. C'est pour cela qu'il y a des gens qui disent, mais pourquoi le président ne change pas telle personne? Mais parce que c'est quelqu'un qui est fidèle à côté de lui. Il sait que cette personne-là, le dos tourné, les yeux fermés, cette personne lui restera fidèle. C'est facile de trouver des gens compétents. C'est facile de trouver des gens qui parlent beaucoup, qui disent plein de bonté. Mais des gens fidèles, oh punaise. C'est facile de trouver quelqu'un qui est bon dans son travail, etc. Mais dès que tu as le dos tourné, il va te vendre. Mais quelqu'un peut-être qui n'est pas compétent, mais parce qu'il sait qu'à côté de toi, il est prêt à mourir pour toi, quelqu'un comme ça, tu ne le changes pas n'importe comment. Eh oui, ça je l'ai appris, même dans les affaires. Même dans les affaires, j'ai vu des business où on met à des postes très, très, très stratégiques des gens qui pourtant n'ont pas la compétence et ils sont juste à côté du boss, mais c'est parce que c'est quelqu'un de fidèle. Et c'est quelqu'un qui a des accès à des secrets. Et on ne met pas n'importe qui à une place où il y a des accès à des secrets. On met quelqu'un de fidèle. Amen. C'est très important. Et quand tu vois quelqu'un qui n'est pas fidèle, quand tu vois quelqu'un qui a du mal à être fidèle, ne serait-ce que dans les petites choses, sache que c'est un signe fort. Si tu veux vraiment rester avec cette personne, alors commencez à travailler ça sérieusement. Et n'hésite pas à lui dire, tu as un problème avec la fidélité. Il faut changer ça. Regarde ce que Jésus-Christ nous dit. Jésus-Christ nous dit dans Luc, au chapitre 16, au verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. » Et il rajoute au verset 12, « Si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne les biens des autres, qui vous donne ? Qui vous donnera le bien qui vous est destiné ?» Hein? Regarde quand on lui confie quelque chose, qu'est-ce qu'il en fait? Regarde comment il se comporte avec les affaires d'autrui. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, cherche quelqu'un de fidèle? C'est très important. Et tu peux juger sa fidélité sur le long terme. La fidélité, la crainte de Dieu, la fidélité. Et le troisième point, quelqu'un de responsable. Ah, ça j'aime. Est-ce que tu peux dire avec moi la responsabilité? Aujourd'hui, on a besoin de gens responsables. La responsabilité. Les gens responsables sont des gens aujourd'hui qui ne courent pas les rues, qui ne courent plus les rues de nos jours. Aujourd'hui, on voit des gens qui s'étaient engagés devant tout le monde le jour du mariage et qui du jour au lendemain, dans la maison, ils désertent le foyer pour une autre personne. Comment il a fait pour venir te sortir les plus belles paroles devant plus de 100 personnes, devant tout le monde, et 2 ans après, tu vois la personne qui s'en va. Pourtant, tu n'as rien fait. Et quand il t'envoie la lettre de divorce, il y a écrit dessus « incompatibilité d'humeur ». Hein? Non, mais c'est un motif de divorce. C'est vrai, c'est un motif de divorce. Incompatibilité d'humeur. Il s'est levé le matin, il n'était pas de bonne humeur. Et puis vos humeurs, vous vous êtes pris la tête, il a décidé de divorcer parce que vos humeurs ne collent plus. Incompatibilité d'humeur. Tu vois. Incompatibilité d'humeur. Je ne veux plus être avec toi. Je ne t'aime plus. Mais comment ça, tu ne m'aimes plus? On est restés ensemble pendant des années, aujourd'hui tu ne m'aimes plus? Je ne sais pas. Je ne t'aime plus. Je t'aime plus. Il y a quelqu'un d'autre, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Je t'aime plus. Tu vois, tu m'aimes plus. Je t'aime plus. Après tout ce qu'on a vécu, tout ce que tu m'as fait, ça a cassé quelque chose en moi. C'est un baratineur. Tu as épousé quelqu'un d'irresponsable. Quelqu'un qui s'engage en tant que chef de famille d'un foyer. Et en plus, derrière, il fait des enfants. Et du jour au lendemain, il est parti. Il est parti. Et tu le vois se pavaner dans la rue. Il croise aussi ses enfants. Mais il a décidé de faire ça. Si ces gens de personnes me font quelque chose. Irresponsabilité. Waouh. C'est impressionnant. Je parlais avec quelqu'un que j'ai reçu chez moi. On discute. Et il me raconte tous les problèmes qu'il a avec sa femme. Et puis j'ai dit, c'est quoi le vrai problème? Dis-moi le vrai problème. Bon, je l'ai trompé. Mais on s'est remis ensemble. Maintenant, ça va. Enfin, ça allait un temps. Maintenant, ça ne va plus. Mais attends, vous vous êtes remis ensemble. D'accord? Donc, il n'y a plus personne entre vous deux. Je le regarde. Et je lui dis, je suis pasteur. Me mens pas. Si tu me mens, je le saurai tôt ou tard. Bon, en fait, je vois quelqu'un d'autre. Et elle est au courant? Non. Mais pourquoi vous vous prenez la tête alors si elle n'est pas au courant? Je ne sais pas, ça ne va plus entre nous. Mais je vais te dire pourquoi ça ne va plus entre vous. Je lui ai dit, ça ne va plus entre vous parce que tu as invité son beau-père qui est assis dans le salon. Monsieur Lucifer appelé Satan. Tu l'as invité à la maison. Et il est venu avec toute la famille, les démons. Ils sont venus, ils sont tous dans la maison. Il y en a qui sont à la cuisine en train de préparer. Il y en a qui sont dans la chambre la nuit quand tu dors, vous faites des cauchemars. Toute la famille est là. Ils sont en train de faire la bamboula à la maison. Et c'est pour cela que vous voyez ta femme et toi. Tu sais pas pourquoi. Ah, c'est pas le temps, laisse-moi. Il y a une atmosphère de colère et de haine dans la maison parce que papa est là. Et il me regarde avec des yeux et dit, tu es sérieux de ce que tu dis? Je dis, oui, tu as invité Satan à la maison. Il me dit, Satan? Il dit, non, Luc, ne dis pas ça. Ne dis pas. Je dis, Satan est chez toi, frère. L'adultère, c'est une porte ouverte à papa. Il arrive en force et il amène toute la famille avec lui, les démons. Esprit de séduction, esprit d'impudicité, esprit d'impureté, esprit de colère, esprit de... Tout le monde est là. Alléluia. Irresponsabilité. Et je lui dis, dès que tu sors de chez moi, tu prends ton téléphone et tu romps avec cette femme. Et tu te préoccupes maintenant de ton foyer. Il dit, ça va être compliqué où je t'ordonne de rompre avec cette femme. Tu veux mon conseil? C'est pas si mon conseil. Ah, mais je lui dis, cherche pas à discuter, tu romps. Et je lui ai dit, tu es un mari infidèle. Tu es un mari infidèle, il faut corriger ça. Je ne dis pas que tu es appelé à être parfait ou autre, mais il faut corriger ça. Il faut revenir, occupe-toi de ta femme et tes enfants. Occupe-toi de ta famille. Si elle a demandé le divorce, c'est parce que quand elle te voit, elle ne reconnaît pas l'homme qu'elle a épousé. C'est pour ça qu'elle a demandé le divorce. Donc maintenant, tu veux quoi? Tu veux me demander conseil et tu veux retourner dormir avec elle là-bas tout à l'heure et à côté, avant de rentrer, tu as passé un coup de fil à l'autre. Mais toi aussi, franchement, arrête de déconner là. Sois sérieux. Et il me regarde. Ok, d'accord, je vais le faire. Ben, bien sûr que tu vas le faire. Si tu ne fais pas ça et le lendemain matin, 6 heures, il reçoit mon texto. Alors, tu l'as appelé. L'irresponsabilité. Et aujourd'hui, la société a besoin de gens responsables. Aujourd'hui, la société a besoin de gens responsables. Un gros fléau aujourd'hui qui met notre société, notre pays à terre, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un gros manque de responsabilité. Et pas seulement dans les couples, dans beaucoup de choses, dans le travail, au niveau de l'entretien de notre pays, manque de responsabilité. Il est directeur général d'une société. Tu es avec lui, hein? Vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble depuis des années, vous vous préparez au mariage, tout ça. Il est directeur général de telle boîte. Et tu sais que c'est lui qui est directeur général des infrastructures routières. Et tu sais que c'est lui qui doit faire la route où toi tu passes tous les matins en voiture. Donc, comme tu es proche de lui, tu as la capacité de lui dire, mais chérie, c'est pas toi qui dois faire la route là. Oh, tu sais, le budget. Le budget n'a pas été débloqué. Mais pourtant, il y a 6 mois, tu m'as dit que le président avait débloqué le budget, non? Oh, mais il y a eu des problèmes, tout ça. Tu n'as pas détourné l'argent là. Ah, toi aussi. Il ne faut pas poser des questions comme ça. Tu parles trop aussi. Etc. Irresponsable et en plus menteur. Fais attention. Va pas te mettre avec un Gabonais comme ça. Ça, c'est la gabonitude, ça. Oui, c'est pas bon, ce genre de personnes-là. Irresponsabilité. Absence des pères. Absence de gens sérieux. Et le pays est en problème. Le maillon le plus important de la société, la famille, est en feu. Parce que tout simplement, les gens responsables ont disparu. Gloire à Dieu. La crainte de l'Éternel, la fidélité, la responsabilité. Le quatrième critère du conjoint idéal, selon Dieu, c'est celui qui cherche à te protéger et non à t'exploiter sexuellement. Celui qui cherche à te protéger spirituellement et physiquement et non à t'exploiter sexuellement. Au moment de l'engagement, tu dois t'assurer que ton partenaire est quelqu'un de sérieux qui cherchera avant tout à te préserver et non à assouvir ses pulsions sexuelles et vous faire tomber à tout moment. Quelqu'un qui a un problème à se maintenir sexuellement avec toi, c'est un gars à problème. Et ça va aussi dans l'autre sens. Si tu es avec une femme qui a des problèmes à rester tranquille, frère, éloigne-toi d'une telle femme. Restez de bons amis, mais éloigne-toi d'une telle femme. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 5:3 que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints. Et Paul va même encore plus loin. 1 Corinthiens 6 au verset 18, il dit, est-ce qu'on peut dire le mot là avec moi? Fuyez. On ne négocie pas avec l'impudicité. On fuit l'impudicité. Jeune de la maison du bâtisseur, j'ai envie de vous dire ceci. Fuyez l'impudicité. On ne joue pas avec le péché sexuel. Le sexe, dans la Bible, a une signification très, très, très profonde pour Dieu. Le sexe ne consiste pas juste à faire des enfants. Le sexe est l'unique moyen, humainement parlant, que nous avons de pouvoir, nous, en tant qu'êtres humains, expérimenter ce qu'on appelle l'adoration. Quand nous adorons Dieu, quand nous adorons Dieu avec les chants, etc., il y a une dimension d'adoration qui nous amène à l'extase. C'est ce que David a expérimenté dans la Bible, au point où il se met nu et il se met à danser devant tout le monde alors qu'il est roi. C'est-à-dire, le gars était arrivé à un niveau d'extase et il était tellement connecté au Saint-Esprit qu'il dit là à Dieu, je me déshabille. Les gens, sa femme le regarde et dit, mais mon mari, qu'est-ce qui t'arrive? Il se met à danser comme... Il était arrivé à un niveau d'extase dans l'adoration. Et le sexe, physiquement parlant, a cette signification-là. Chaque fois que tu as une relation sexuelle avec ta femme, vous êtes en train d'adorer. Vous êtes en train d'expérimenter l'adoration. Et c'est ce que la Bible nous montre entre Christ et son épouse, l'Église. Et quand Christ a une relation avec son épouse, l'Église, on appelle ça adoration, extase. Et c'est ce que symbolise le sexe. Le sexe n'est pas là juste pour faire des enfants. Donc, va pas t'amuser à t'unir avec quelqu'un et avoir une extase avec quelqu'un alors que ce n'est pas ton partenaire. Ça, c'est compliqué, ça. Et Dieu dit, fuis ça. Tu es avec quelqu'un, tu commences à fréquenter, tu fréquentes quelqu'un depuis un certain temps, et puis tu vois que cette personne n'arrive pas à rester en place en ce qui concerne le sexe, tu le remets à sa place comme une bonne femme de valeur. Là, tu dis, hey, tu m'arrêtes tes bêtises là. Si tu veux rester avec moi, pas toujours, hein, tu restes tranquille. Et si tu n'es pas capable de te contenir, ben va voir ailleurs si j'y suis. Et alors, okay. Attends, je suis la fille de l'Éternel quand même. Même pas, attends. Non, les femmes vraiment. Valorisez-vous. Ah. Quand le gars vient, fais-lui ça dur. Fais-lui ça dur. Tant qu'il n'a pas la bague à la main, tu lui fais ça dur. On ne se retrouve pas seul, on ne parle pas de ça, etc. Tout ce que tu veux. Mais en tout cas, ça, là, c'est seulement dans le mariage. Pas touche. Et puis tu sais comment, je suis très très sensible. Donc tu ne me touches pas la main. Dès que tu me touches la main, il y a quelque chose qui se passe. Ne me touche pas la main. Oui, parce que ça commence comme ça. On est là ensemble, on commence à s'attraper, on commence à te faire ça, tout ça. Non, laisse-moi, ne me touche pas, laisse-moi. Parce que quand tu fais ça, là, ça m'attendrit, tu vois, non? Et après, tu vas venir m'embrouiller. Non, laisse-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Non. Paul nous dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dis avec moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Répète ça avec moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Quand le gars te regarde, tu dis, tu vois le corps là? Le corps là, c'est pas n'importe quoi. Ça, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu, la majesté, le créateur de toutes choses, a pris un jour la décision de venir habiter en moi. S'il a pris la décision de venir habiter en moi, mais le corps là, c'est son ambassade. C'est son corps, c'est son temple, son palais. David dit dans le psaume, dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans mon corps, là, tout s'écrit gloire. Mais si tu veux voir la gloire, tu vas voir la gloire, là. Tu vas devoir attendre, mon frère. Il faut attendre pour pouvoir expérimenter la gloire, là. Tu vois, non? Donc, il va falloir que tu ailles te présenter à mes parents. Tu fais les choses correctement. Tu payes la dot. Si on fixe la dot à 10 millions, tu te débrouilles, mais tu la payes. Tout ce que tu veux. Hein? La semaine dernière, j'ai assisté à un mariage. J'avais pitié du gars, je vous assure. ils étaient juste là en traco là. Je vois plein de monde, ils sont sur la route bitumée là. Ils sont pas encore dans la cité, sur la route bitumée. Je vois plein de monde et puis je vois ils avaient mis deux paniers par terre et puis ils dansaient, ils bloquaient la circulation. Et puis quand je passe, je dis, putain, c'est un mariage. Les gars, ils commencent déjà à le ponctionner déjà ici. Tchao. Jusqu'à, déjà la route, on commence déjà amende. Arrêtez qu'on va arriver un peu devant, amende. Arrivez au portail, amende. J'ai envie de dire, vous êtes de quelle ethnie? Parce qu'il y a des ethnies, ils aiment mieux ces choses-là. J'ai dit, en tout cas, j'espère que le gars s'est préparé. Hein, parce que ce genre de famille, quand tu arrives, tu sais que la femme, tu ne la verras pas tant que tu n'auras pas passé les passages. Amen, gloire à Dieu. Donc, tant que tu n'es pas marié à cette personne, elle ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Et il est donc du devoir de chacun des partenaires de ne pas se toucher et éviter de coucher ensemble. Car en faisant cela, c'est la propriété du Seigneur qu'on viole. Et quand on viole ta propriété, comment tu réagis? Dis-moi un peu. Imagine que tu rentres chez toi et que tu trouves qu'on a forcé la porte. Et quand tu rentres dans ton salon, on a pris la télé, on a pris le salon, on a pris... Comment tu réagis? Ça te met en colère. Tu dis, mais comment? Ça fait quelque chose. Je vous assure, le vol, quand quelqu'un est rentré chez toi et puis il a volé, ça fait quelque chose. Même s'il n'a pas volé quelque chose de cher. Hein. Juste le fait... Tu rentres dans le couloir et puis tu vois, on a forcé la porte de la chambre. Et puis dans la porte de la chambre, tu vois, ils ont dérangé le lit. Tu vois les traces de pas par terre. Tu vois qu'ils ont ouvert les tiroirs, ils ont mis tes habits partout, etc. Tu vois qu'il a ouvert ta boîte à bijoux. Il a laissé les bijoux les plus chers, il a pris le moins cher. Tu dis, mais vraiment, lui aussi, vraiment. Les trucs chers, il laisse les points. Tu vois... Ça veut dire que le gars, quand tu vois le lit dérangé, peut-être même il s'est prélassé sur ton lit, tout ça. Ça te fait quelque chose au dedans de toi. Donc, sache que le sentiment que tu as là, c'est ce que Dieu ressent quand quelqu'un entre dans son temple et commence à se balader dans son temple. C'est ce que Dieu ressent. Et c'est pour ça que Dieu n'approuve pas ce genre de choses. Et Dieu dit, ça, je ne peux pas bénir. Donc, faites gaffe. Honoré, parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 13 que le mariage soit honoré de tous. Donc assure-toi en tant qu'homme et en tant que femme d'honorer le mariage. Amen. On va finir. Je vais prendre 5 minutes pour finir ce point, le cinquième critère. Le cinquième critère pour finir avec celui-là, c'est que le conjoint idéal, selon Dieu, c'est quelqu'un qui s'exige à lui-même que tes besoins soient comblés avant les siens. C'est que quand il te regarde, il faut d'abord que tes besoins soient comblés avant les siens. Il n'est pas là à toujours chercher d'abord à se satisfaire lui-même. Il veille à ce que toi, tu sois d'abord heureux ou heureuse. Dans tout ce qu'il fait, il pense d'abord à toi. Il se soucie de toi. Il se préoccupe de toi. Il se demande si... En faisant ça, est-ce que ça va te faire du bien? Quelqu'un qui est avec toi, vous faites des choses et il sait pertinemment que ça te fait du mal, ça te rend triste, c'est pas quelqu'un qui t'aime et c'est pas quelqu'un qui veut ton bien. C'est quelqu'un qui veut te détruire. Et même si émotionnellement tu es pris de la personne, tu dois t'en défaire, tu dois te dégager de cette personne le plus vite possible parce qu'elle va te détruire. Et quelqu'un qui te détruit de l'intérieur, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Je les appelle les hommes de la cinquième colonne. La cinquième colonne, vous savez ce que c'est? Un jour, un général arrive devant une forteresse. Et puis la forteresse est barricadée de partout. Ils ne peuvent pas entrer. Toute l'armée est bloquée. L'armée ne peut pas rentrer dans la forteresse pour pouvoir conquérir cette ville. Et puis le serviteur du général, il voit que son général sourit. Il dit, mon général, on est bloqué, on ne peut pas rentrer dans la forteresse. Comment est-ce qu'on va faire? Et le général dit, fils, j'ai ma cinquième colonne. On attend le feu vert. La cinquième colonne, c'est quoi la cinquième colonne? Ce sont mes espions qui sont de l'intérieur. Ils sont en train de faire ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir la porte de l'intérieur. En fait, tu ne le sais pas, mais on a déjà commencé à les détruire de l'intérieur. Et c'est ça qui me réjouit, en fait. Et quelqu'un qui tient ton cœur et qui joue avec tes sentiments comme ça, c'est quelqu'un de très, très, très dangereux. C'est quelqu'un qui est entré dans ton cœur, qui a posé son trône dans ton cœur et qui fait ce qu'il veut. Il te maîtrise, émotionnellement parlant, il te maîtrise. Rien qu'avec un regard, il te maîtrise. Rien qu'avec un regard, il t'influence. C'est quelqu'un comme ça, c'est très dangereux. Quelqu'un de très dangereux. Alors que le conjoint idéal, le conjoint selon Dieu, c'est celui qui il connaît tes émotions, il sait ce que tu ressens pour lui et il fait très attention à ça. Et il s'assure que tu es satisfait. Il s'assure que ce qu'il fait te fait du bien et t'aide à grandir, à avancer et à être plus heureuse, plus heureux. Amen. Et une personne qui entretient avec toi une relation non conforme aux standards de Dieu et aux principes bibliques et qui ne se soucie pas de savoir si cela t'aide à avancer ou pas, cette personne alors n'est pas digne de toi. Tu dois t'en séparer. La personne avec qui tu décides de t'engager demain dans le domaine des fiançailles pour vous préparer au mariage, c'est quelqu'un qui doit te respecter, qui doit te valoriser, qui doit t'aimer et te prouver son amour par ses faits et gestes et ses paroles et dans tout ce qu'il fait, pas seulement en t'offrant des cadeaux, mais dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, c'est quelqu'un qui s'assure que tes besoins sont comblés. Et quand un de tes besoins n'est pas comblé, il doit s'en inquiéter. Et quand tu vois un homme qui s'inquiète pour toi parce qu'il voit que tu n'es pas heureuse, alors cette personne est bien placée pour être le conjoint idéal. Amen. On va incliner la tête. On va incliner la tête et je voudrais que tu élèves la voix, que tu pries. Que tu pries et que tu demandes à Dieu, tu dises, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que vraiment tu illumines les yeux de mon cœur et que tu m'aides, Père, à comprendre, que tu m'aides à discerner, que tu m'aides à voir la personne qu'il me faut. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis avec quelqu'un, peut-être même que je suis même marié. Et je me rends compte que nous n'avons pas, Seigneur, observé toutes ces choses-là. Et ça nous a causé même des problèmes dans notre couple. Seigneur, aide-nous. Aide-nous maintenant à changer, à nous améliorer, à être meilleurs et à honorer, Seigneur, ton nom, à honorer, Seigneur, ta parole, à t'honorer, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, Père. Seigneur, nous te désirons plus que tout, Seigneur. Nous désirons plus que tout témoigner de ta bonté, de ta fidélité, de ton amour et de la grâce que tu nous as fait de te connaître. Et nous soupirons aujourd'hui après, Seigneur, ta grâce. Seigneur, merci parce que sur le chemin de la vie, sur le chemin de la réussite, tu m'as montré l'importance de chercher premièrement le royaume des cieux, d'être en accord avec cette personne, Seigneur, et de bâtir une amitié intime avec cette personne. Et maintenant, Seigneur, que j'ai rencontré cette personne, Seigneur, merci, parce que tu nous aides à discerner les critères de sélection du royaume, Seigneur. La crainte de l'Éternel, la fidélité, la responsabilité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la responsabilité, Seigneur, de mon conjoint. Merci parce que tu m'accordes la grâce d'être avec quelqu'un de responsable, d'être avec quelqu'un de fidèle, fidèle dans les petites choses comme dans les grandes, d'être avec quelqu'un qui craint ton nom, quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, d'être avec quelqu'un qui ne m'exploite pas sexuellement, quelqu'un qui n'est pas là juste pour assouvir ses pulsions sexuelles. Seigneur, non, merci pour l'homme idéal, merci pour la femme idéale, merci pour la personne idéale, pour le conjoint idéal, pour la personne, Seigneur, qui sera pour moi une source de bénédiction, une source de salut, une source d'encouragement, une source de restauration. Merci pour cette personne, Père, au nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce parce que au temps opportun, tu enverras cette personne, Seigneur. Accorde-moi seulement la grâce de rester concentré, Seigneur, sur ma destinée, de travailler, Seigneur, à mon appel et de, Seigneur, de me concentrer sur ce qui est prioritaire pour toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis encore merci. À toi soit la gloire, à toi soit la louange, Père, pour l'œuvre que tu as commencé dans ma vie et que tu rendras parfaite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen et acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est digne de notre louange, de notre approbation, de notre adoration. Gloire à Dieu.
Toi qui l'es depuis toujours, Esprit de Dieu, répand ton feu, Esprit de Dieu. Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours, Esprit de Dieu, répands ton feu dans ma vie. Répands ton feu dans ma vie. Répands ton feu dans ma vie. Répands ton feu dans ma vie.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.